scotchés, entassés depuis notre déménagement il y a 5 ans. Certains avaient été faits à la dernière minute. Ils contenaient un vrac d'objets. J'ai trié ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai rempli des sacs poubelles de vieux souvenirs inutiles, en ne gardant que l'essentiel. À certains moments de ta vie, il faut faire le vide, il faut gagner de l'espace. J'ai retrouvé ton portefeuille en cuir, avec ton permis de conduire, ta carte d'identité, ainsi qu'un morceau de papier, avec ton écriture et une adresse en Italie. Je me suis revu dans l'atelier, à côté de l'établi, lors de ces matinées pluvieuses ou froides, où nous discutions tous les deux. Tu me racontais la guerre, le service du travail obligatoire, comment tu t'en étais enfui pour le maquis à 16 ans, puis la libération. Tu m'as plusieurs fois répété que tu avais vu des choses terribles, que tu espérais que je ne connaîtrais jamais ça. Tu m'en parlais souvent, comme si ta vie s'était arrêtée juste après. Nous parlions politique aussi parfois. Tu faisais ce que je fais aujourd'hui avec mes enfants. Tu m'expliquais, tu essayais. Tu répondais à des questions qui paraissent simples, mais qui prennent du temps pour arriver à la conclusion que rien n'est simple finalement. Tout est une histoire de vécu, d'expérience. C'est ce qui construit ton jugement, ton appréhension des choses. C'est très difficile d'expliquer ça à un enfant, surtout maintenant, où tout doit aller vite. Très vite. Ces matinées au ralenti où nous marchions dans les champs, je comprends finalement pourquoi je suis si solitaire. Je revois mon enfance dans ces étendues silencieuses. Un terrain de jeu vaste et muet. J'étais seul avec mon bourdonnement intérieur. Les bruits de la nature, la pluie, la neige. J'étais seul. J'étais heureux. J'aimerais avoir cette discussion avec toi aujourd'hui, confronter nos vécus d'hommes. Tu as dû connaître les angoisses nocturnes, quand tu commences à douter de tout, quand tu essaies de faire des plans sur le long terme, dans ta tête, et que c'est simplement impossible. Quand tu additionnes les factures qu'il reste à payer avant la fin du mois, et celles qui arrivent. Quand tu commences à réfléchir au futur, le tien, celui de tes enfants, à leurs études, à leur travail, à ce qu'ils vont devenir dans le monde dans lequel tu vis et qui te fait horreur. On aurait pu parler du poids de la famille et des moments où elle ne pèse rien. J'aimerais bien avoir cette discussion que je n'ai jamais eue avec toi, de père à père. Ça m'éclairait sur cette pression qui me coupe parfois le souffle vers 5 heures du matin. Ça t'aurait peut-être fait rire en comparant avec ce que tu as vécu. Je ne sais pas. Peut-être aurais-tu pu me conseiller. J'ai 6 ou 7 ans, je suis au volant du tracteur. Tu passes la première, puis tu descends. Maman est sur la remorque. Elle réceptionne les balles de paille que tu lui passes. Quand je ne vais pas droit, tu tapes sur le métal avec ta fourche et je redresse. Il est 15h au mois d'août. Je dois avoir 11-12 ans. On doit aller bouger le système d'arrosage dans le maïs. Je n'ai pas envie de sortir de la maison. 40 degrés. On doit porter ses tuyaux brûlants. Traverser le champ avec les feuilles qui frottent les bras, les jambes et le visage. Il est 19h. Je dois avoir 14 ans. Je suis assis dans un coin, je te regarde, je ne dis rien. La traite des vaches, un travail répétitif, installer la machine qui aspire, attendre que le pot soit plein, ramener le lait dans la cuve en boitant, recommencer jusqu'à la dernière bête, plus de 2 heures durant, recommencer jusqu'à la dernière bête, avec le transistor qui hurle les infos, et cette vieille émission, Le téléphone sonne. J'ai retrouvé ton contrat de travail rédigé à la plume, avec ton nom, mais pas celui de maman, qui travaillait aussi et qui gérait en plus la maison et les enfants. Tout était minutieusement détaillé. Les terres, les récoltes, l'élevage, le salaire, les avantages en nature. Je me rappelle le propriétaire, il venait une fois par mois avec sa grosse voiture. C'était un vieux médecin fortuné. Il possédait d'autres terres et une grande maison dans le village. Il vivait à la ville. Je me rappelle sa classe. Il te faisait confiance. Il ne t'a jamais pris de haut. Il a toujours été réglo. Et toi aussi. J'ai entendu dire que quand mes sœurs étaient très jeunes, il les auscultait systématiquement à chaque visite. Dès qu'il y avait un problème de santé, maman discutait avec lui. Je me rappelle sa mort. Quand ses enfants ont pris la relève, ce n'était plus du tout la même chanson. Maman sourit, tu tires un peu la gueule avec ta cigarette et ta casquette. Je me rappelle ces moments où elle me racontait son arrivée, ses histoires d'avant le sommeil. Je n'ai plus tous les détails en tête, un long voyage en voiture puis en train, avec les parents et les 6 frères et sœurs. La famille venait d'exploser, la pauvreté, Mussolini, certains sont partis en France, d'autres en Argentine, d'autres en Australie. Quand ils sont arrivés ici, ils ont été hébergés par des cousins, eux aussi immigrés, avant de rejoindre la ferme dans laquelle ils allaient vivre et travailler, pour un patron français. Les premières années furent difficiles. Il y avait le problème de la langue. On ne peut pas dire qu'ils aient été bien accueillis par les locaux non plus. Heureusement, il y avait les cousins et leurs amis. Je me souviens vaguement d'autres histoires, comme la pêche à la batterie de voiture dans la rivière, des enfants du village qui les traitaient de macaronis, ou de la maigreur d'un de mes oncles quand il est rentré, après s'être évadé d'un camp de prisonniers en Allemagne, et du fait que ça l'a profondément changé, à jamais. Elle m'a aussi raconté comment vous vous êtes rencontrés, mais j'ai oublié les détails. Une histoire d'amour assez simple. Elle m'a toujours dit que tu l'aimais, et elle aussi. Avec le recul, ça a dû être quelque chose de se marier à une étrangère à cette époque-là. En même temps, je n'ai pas l'impression que ça ait fait toute une histoire dans la famille. Je n'ai jamais rien senti de négatif. Je n'ai jamais rien entendu, ni d'un côté, ni de l'autre.
Sur le moment, je n'ai pas bien compris l'émotion de ma mère de retrouver
retrouver un pays qu'elle avait quitté enfant, dont elle n'avait aucun souvenir, juste un fantasme entretenu par les anciens. En Italie, c'est pas comme ça. En Italie, c'est pas comme ici. Elle disait parfois ça, ma grand-mère, en mélangeant les deux langues avec en plus un peu de patois. La première fois que je suis revenu seul en Italie, ça n'était pas du tout dans le même coin. Pourtant, j'ai été bouleversé. Je comprenais tout ce que les gens racontaient. Dans la rue, comme par magie, je me sentais chez moi. Ça peut paraître ridicule, mais je me suis senti un peu italien. Il y avait tant de choses qui revenaient à moi. Je ne saurais pas dire quoi exactement ou expliquer précisément. Il y avait tant de choses qui